Voilà, comme ça. Oui, ça va. Alors, la caméra
passe. What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded,
sir. Che fai, credi?
Che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Cinémascope, nouveau et dernier de l'année. En effet, nous allons refermer cette année 2022 aujourd'hui pour ce qui concerne Cinémascope, mais les cinémas restent ouverts et c'est vraiment l'époque où on doit se rendre au cinéma en famille, les fêtes de fin d'année. On va parler de quelques films d'ailleurs pour le jeune public avec à la fois Cathy qui est de retour dans l'équipe et qu'on salue. Bonjour Cathy.
Bonjour, content de vous retrouver.
Et puis Olivier que l'on retrouve et qui nous parlera de jeune public.
Oui, tout à fait. Oui. Je vais parler ou je parle maintenant.
Après,
oui, du chat poté.
Poté. Hein,
drôle de titre.
Drôle de titre. On salue à la technique Quentin, avec tes blagues et tes jokes de début. J'ai failli appeler Quentin par un autre prénom que je ne citerai pas pour ne pas l'enregistrer. C'est
bonjour,
Quentin
bonjour.
Qui est en technique. Bonjour et qui remplace Sylvain qui est dans de mauvais drap, on va dire comme ça pour aujourd'hui, le pauvre. Voilà, on le salue aussi. L'émission va démarrer peut-être avec un petit retour, Cathy, si tu le veux bien. En arrière, il y avait les rencontres des cinémas d'Europe. Je ne vais pas te demander de parler des rencontres des cinémas d'Europe, je vais te demander de parler de Stella est amoureuse, parce que ce film était présenté à l'occasion des rencontres des cinémas d'Europe et qu'il revient sur les écrans du cinéma Le Navire.
Oui.
Dès cette semaine.
Il est sorti le 14. Là, c'est ça,
ouais,
en même temps qu'Avatar. Alors là, ça, waouh, c'est ça va pas être simple. En effet, ça joue pas du tout dans la même cour. Et oui, moi, j'incite à aller voir Stella est amoureuse parce que comme j'aime bien le dire, c'est un peu l'antithèse de la Boom, de l'histoire de Vic Berreton. C'est une jeune femme qu'on retrouve puisque un premier film il y a une dizaine d'années avait été réalisé par Sylvie Verhaed aussi, bien sûr. Sur une petite fille dont les parents tiennent un bar près de Paris, enfin en banlieue, et qui va devoir s'intégrer dans une école où c'est pas du tout le même milieu social, et c'est comment elle va s'intégrer dans ce collège en l'occurrence et comment va se passer un peu l'intégration, sachant qu'on découvre déjà dans Stella la relation de ses parents compliquée, enfin la tenue du bar, enfin c'est très 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 réaliste comme film, et c'était assez savoureux. Et là on retrouve Stella amoureuse, en tout cas adolescente, enfin, oui, elle a dans les 16 ans, entre 16 et 18 ans, en fait, dans l'histoire. Et elle va découvrir l'amour et puis une vie. Bon, on voit bien qu'elle a été intégrée, qu'elle a des copines et que c'est comment elle va vivre son désir amoureux, la relation amoureuse et comment tout ça va se passer. Et tu disais que toi, tu avais beaucoup aimé Stella, Laurent, et beaucoup, enfin un peu moins Stella est amoureuse, mais il y a plein de non-dits dans le film, en fait. C'est vrai qu'on peut avoir un petit sentiment de frustration. Il y a beaucoup de scènes où il n'y a pas de dialogue, où il se passe... dans les scènes, par exemple, au bain-douche, il y a plein de scènes de danser où il n'y a pas de... Il y a des connexions entre les gens, mais pas forcément des dialogues. Et ça peut être dérangeant, c'est vrai, peut-être, quand on est spectateur, mais je trouve qu'il y a quand même plein de choses qui passent malgré tout, parce qu'il faut rappeler que la communication, cette communication-là entre les parents est compliquée, entre elles et ses parents, c'est compliqué aussi. On voit bien qu'entre copines, elles ont aussi des divergences d'opinion ou sur la vie en général. Et en fait, c'est ça que montre le film. Enfin, moi, c'est ce que j'ai bien aimé, ce côté silencieux, peut-être parce que... Moi, je ne suis pas très bavarde. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Peut-être que ça se voit pas comme ça. Non, mais en fait, moi, non, mais c'est vrai que je préfère un silence à dire.
J'ai déjà entendu des choses.
Mais franchement.
Ne serait-ce qu'aujourd'hui. Mais alors.
Non, mais initialement, je suis pas très bavarde. Après, quand je suis partie. Mais j'aime bien ce film pour ça. Parce que j'ai l'impression que je ressens des choses quand je vois ce film. Et je comprends Stella, je comprends ses interrogations. Même si ça nous est pas explicitement révélé comme ça. Mais c'est cette antithèse avec la boum où il y a une profusion de dialogues, de choses qui se passent. Et là, tout est en subtilité. Et j'aime bien, et puis ce côté dans la boîte, là, enfin au bain-douche, moi, toutes ces scènes qui s'y passent là, où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, et en même temps il y a des regards, il y a des connexions qui se font, malgré tout, que j'aime.
Moi j'avais aimé Stella au collège, j'avais vraiment apprécié Stella, mais je ne sais plus les raisons pour lesquelles, parce que ça remonte, on avait déjà présenté ce film il y a 7-8 ans peut-être en amont.
C'est 2008 lors je crois la sortie, hein, donc
même plus que ça. Donc j'avais bien apprécié ce Stella, point la ligne, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins apprécié Stella est amoureuse. René, qui n'est pas là, je pense, aurait dit la même chose. On en avait beaucoup discuté, puisqu'on avait préparé ensemble pour rencontrer, justement, Sylvie Vered. Alors, attention, ce n'est pas un mauvais film, hein, je ne vais pas aller jusque-là, mais on est sorti un peu déçu. On est sorti avec, pas une forme de coquille vide, mais voilà, on se disait, mais qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu nous faire passer? Il y a de très belles lumières. Il y a une bande-son qui est extraordinaire aussi, puisque ça nous retourne un peu dans notre jeunesse, n'est-ce pas?
C'est un film...
Avec très mauvaise mémoire.
Oui, un film qui revient encore sur les années 80. Et c'est vrai que, oui, la bande-son et puis l'univers... Enfin, c'est vrai que cette réalisatrice, en tout cas, là, ce qu'elle nous expliquait, c'est aussi que... Elle revient, elle, sur sa jeunesse. Enfin, il y a beaucoup d'autobiographiques aussi bien dans Stella que dans Stella est amoureuse. Elle y met beaucoup d'elle. Et c'est elle qui a tous les costumes, c'est elle qui les a prêtés. En fait, c'est toute sa garde-robe à elle. C'est assez impressionnant. Et moi, j'aime bien. C'est pas vide. Pour moi, c'est pas vide. Ça révèle des choses avec sensibilité et subtilité, et que cette antithèse avec la boum, moi, me séduit.
Moi, je n'avais pas, réfléchi à cette antithèse. Peut-être qu'il faudrait le revoir avec cette idée d'antithèse de la boum. En tout cas, moi, j'étais très déçu parce qu'en fait, en plus, il manquait Benjamin Biolay. Il est très peu là. On a l'impression qu'il est venu tourner une demi-journée. On a fait quelques images et puis on s'est dit, on va le réintégrer, alors qu'il était très présent dans Stella. Et que je trouve que c'est vraiment, c'est une gueule de cinéma qui était hyper présente dans le film Stella et qu'on retrouve moins dans Stella est amoureuse. Par contre,
c'est un petit peu comme quand il chante, quoi. Il est très peu là, quoi.
Non, mais je ne parle pas de la chanson.
Non, mais après ça on peut en débattre
sur. Ça c'est goût personnel. Ouais. En tout cas, il est.
Le fameux nouveau Gainsbourg, on l'avait appelé. Mais
ce côté, oui, mais la figure du père, elle prend une claque, dans Stella et elle continue d'en prendre une dans Stella est amoureuse. Parce que alors, j'ai l'impression qu'il est encore pire que dans le premier, mais il joue très bien
il est très peu à l'image, c'est un peu décevant.
Il est
parce
moins
qu'on
à l'image,
voit,
c'est beaucoup elle qui l'est en fait, c'est beaucoup Stella
et Marina Foïs.
Et Marina Foïs
qui est très forte quand même. Enfin, moi j'avais trouvé Marina Foïs dans un rôle qui lui va très bien, c'est un rôle de mère un peu.
C'est pas elle qui joue la mère dans le premier.
Non, pas du tout. Ouais. Oui, d'accord. Mais dans ce Stella est amoureux, je trouve qu'elle relève un peu. Enfin, pour moi, j'avais trouvé qu'elle relevait un peu ce film. Bon, il faut se faire un avis. Hein.
Voilà, il faut aller voir le film et se faire son propre avis, exactement.
J'ai pas vu le film, mais alors si Marina Foïs fait une performance comparable à celle de Asbestas, alors...
C'est un personnage totalement différent.
Oui, d'accord. Mais si elle a une composition aussi convaincante, ça peut valoir le coup, rien que pour ça. Hein.
Elle est bien allumée dans ce Stella est amoureux. Je l'aime bien, moi, je la trouve tout à fait. Voilà, et puis on va la découvrir, si vous le voulez, aujourd'hui à 14h30 et à 20h30, par exemple, Stella est amoureuse. On peut fumer un peu, ça ne nous fera pas trop tousser. Il paraît que fumer, Cathy ne parle pas, mais elle fume, oui. Parce que fumer fait tousser. Fumer fait tousser est aussi à l'affiche du cinéma Le Navire. Cette semaine, vous le verrez à 17h45 et 21h. Film que tu as vu, Cathy ?
Oui, j'ai vu et ça me fait tousser depuis. D'accord. D'ailleurs. Mais
Quentin Dupieux, pardon pour la réalisation.
Ouais, Quentin Dupieux. Alors Quentin Dupieux, c'est vraiment un ovni dans le cinéma. C'est quelqu'un qui est très libre, qui se fait plaisir. Et ça se voit forcément à l'écran à travers ses films et avec les acteurs et les actrices qu'il choisit. On pourrait presque se dire ouais, c'est vraiment du foutage de gueule en fait, il nous prend pour qui il nous prend, et en fait c'est quelque chose dont on a souvent parlé même à travers les rencontres avec les auteurs qu'on a reçus, mais c'est vrai que est-ce qu'un auteur ou un cinéaste, quel que soit son genre, pense au spectateur quand il réalise un film? C'est quand même une question qu'on peut se poser régulièrement, parce que et est-ce qu'il doit d'ailleurs penser à ça? Et je pense que Quentin Dupieux fait partie des cinéastes qui ne se posent pas forcément cette question, qu'il a envie de faire du cinéma voilà, à sa façon, raconter des histoires un peu barrées, beaucoup barrées, avec des personnages complètement décalés. Et bah, où on rentre dans ce jeu-là ou on ne rentre pas, hein. On peut être complètement hermétique, mais ça ne peut pas complètement laisser indifférent. Et là, dans Fumer fait tousser, on se retrouve cette fois avec quatre. Alors c'est les Tabac Force qui ont des costumes version comment ça s'appelait la série là qui avait des costumes jaune bleu force rouge force bleue force jaune voilà. Les Power Rangers, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ils attaquent la première scène du film. Ils sont en train de, ils vont désinguer une tortue. Parce qu'il y a les Tortues Ninja aussi.
Mais moi, j'ai plus vieux que ça. Hein. J'avais les San Kukai, je crois.
Ah, les
San Kukai, c'est la base. Ça, c'est la base. C'est avant les Rangers.
Alors, pour les auditeurs, je tiens à dire qu'ici, c'est un véritable brainstorming entre la technique, les différents journalistes qui circulent dans les studios. C'est devenu un concours. Nous ne savons pas encore qui gagne, mais enfin...
Non, voilà. Non, mais allez, on continue, excuse-nous. Voilà, donc, il y a ces personnages...
Donc, il y a ces Tabac Force donc, qui sévissent sur Terre parce qu'il y a des méchants qui viennent nous embêter. Et ils ont un chef. Alors là, on bascule un peu dans le Muppet Show. Et avec la voix d'Alain Chabat, alors ça, c'est super, qui leur annonce qu'il va y avoir... Enfin, voilà, que finalement, on va tous mourir et qu'il reste très peu de temps pour trouver une solution qui sans doute ne va pas être trouvée. Bon, bref. Et ils sont envoyés quand même quelques temps pour se reposer parce qu'ils ont quand même beaucoup bossé. Et ils font une espèce de feu de camp. Et pendant ce feu de camp, bah, finalement, le film bascule sur autre chose. On sort un peu des Tabac Force. Et on est dans un truc où l'idée, c'est un peu de se faire peur, donc de raconter des histoires pour faire peur. Donc là, on bascule sur d'autres trucs. Et franchement, je me suis marrée pendant tout le film. Enfin, en plus, Quentin Dupieux, il fait des films d'1h20, grosso modo. Donc voilà. Par rapport à 3h15 de Avatar, bon, si on a un petit créneau, qu'on ne sait pas trop et qu'on a envie de décrocher, de se poser un peu le cerveau, bien que ça fasse quand même aussi réfléchir à des trucs, c'est pas complètement vain.
Il y a du Monty Python là-dedans ou non? On est dans les trucs des années 70-80, alors je dis, il n'y a pas un peu de Monty Python? Les mecs qui s'arrêtent, on passe à autre chose?
Non, c'est pas forcément. Non, ça ne m'a pas trop fait penser personnellement au Monty Python, mais. En tout cas c'est atypique, c'est barré et c'est voilà, on se laisse porter ou pas, on peut voilà, je peux comprendre qu'on soit hermétique aussi au truc, mais Quentin Dupieux, moi depuis Rubber, je suis tout ce qu'il fait et franchement c'est un peu inqualifiable, mais moi je suis fan.
Oui, moi, ça me fait penser à une chose de plus en plus souvent quand je pense au cinéma. Je me dis que les films, c'est un petit peu comme des petites entreprises, hein, finalement. Quand on regarde un film, c'est un peu une entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou grosse entreprise comme Avatar, par exemple. Ça doit coûter un peu cher. Donc, il y a des petites entreprises comme ça, avec le personnel, des métiers, un budget, etc., une entreprise, quoi. Et on peut dire que Quentin Dupieux, ben, il monte au fil des années, comme ça, il monte des petites entreprises, hein, le Dain, etc. Et
ça ne connaît pas la crise, hein, ça avance comme ça, son petit bonhomme de chemin. C'est passionnant.
Non.
Je voulais ajouter quelque chose, mais j'ai zappé, ce que je veux dire. Bon, bah,
bon.
Bref.
Bon, Quentin Dupieux, on va le voir. Fumer fait tousser, le navire aime. C'est encore à l'affiche, ça reste à l'affiche pendant encore un petit bout de temps. Et d'ailleurs, ça a été... en tout cas, les programmateurs du secteur sont plutôt, semble-t-il, heureux de ce film, puisqu'il est au Ciné 7, c'est à Rions, et au Foyer à Rosières tout au long de cette semaine. Donc voilà, ce film est à voir en trois lieux différents. Fumer fait tousser de Quentin Dupieux.
Et Dupieux est en... Ouais, non, mais je voulais dire que c'est quand même un super... Enfin, en direction d'acteur, je le trouve très bon, parce que franchement, quand on voit les...
Il y a
Anaïs Dumoustier, il y a Jean-Pascal Zidi, il y a Gilles Lelouch, oui. Bon, il y a Chabat, mais c'est en voix off. Mais c'est, tout est très juste. Enfin, je trouve que dans les dialogues, il y a une justesse de ton. Il parle comme... c'est le truc naturel, quoi, en fait. C'est pas du tout... alors que c'est complètement barré, quoi. Mais c'est naturellement barré, en fait. Voilà.
Bon, allez, passons au jeune public pour parler, Olivier, si tu le veux bien, du Chapoté et de sa dernière quête, puisqu'on est sur le numéro 2.
Oui, c'est le numéro 2. Mise au monde extrêmement difficile pour ce spin-off de Shrek, ou je sais pas quoi. Oui, bah Shrek, c'est un peu... C'est une franchise, quoi.
C'est ça.
On parlait de cinéma entreprise, bah là, on est en plein dedans, quoi. Hein. Donc, il y a la franchise... C'est DreamWorks, hein, je crois, le fabricant. Et puis, donc, la franchise Shrek. Et puis, le spin-off, le Chaboté. Le premier numéro était sorti...
Poté. Attention.
Le chat. Était sorti donc en 2011. On parlait de budget. Le chat poté en 2011, c'était 550 millions de recettes pour 130 millions de budget. C'est une bonne affaire. Hein, c'est une bonne affaire. Voilà, le chat poté. Le titre, bon, une fois de plus, ils se sont complètement ratés. Je ne comprends même pas comment on peut traduire aussi mal, aussi bêtement. En fait, c'est Puss in Boots, c'est Pussy, le chat, voilà, in boots, dans ses bottes, quoi, enfin, voilà, Puss in Boots, tout simplement, et c'est un des titres du conte, le maître chat ou le chat beauté, qui est raconté en particulier par Perrault, voilà, donc c'est, et puis alors ce n'est pas la
Perrault,
dernière,
peut-être.
Pardon
c'est... Perrault poté, pas du tout. Oh, ce serait tordu. Oh.
Ouais,
c'est
ah bon. Oui. Non, mais là, je mets 100 francs dans
non,
le
non,
loin.
Non, mais le chapeau, t'es...
Oui, oui, le chapeauté, oui. Ou la potée avec du poireau ou Perrault. Enfin, tout est possible. Là, on est à deux doigts de faire un scénario pour Quentin Dupieux, je pense.
Oh
si, ça s'intitulerait La Potée, justement. Et puis, écoute, 1h20.
S'il nous écoute, ce que nous espérons, bien sûr.
Bien sûr, bah, comme d'habitude. De toute façon, il ne manque jamais de m'appeler à chaque fois que je dis du mal de ses films. Non, mais
revenons sur le chat poté.
Revenons au chat poté.
Poté.
Voilà, au chat poté. Et donc, le sous-titre, c'est La Dernière Quête. Alors, en anglais, ce n'est pas La Dernière Quête, mais The Last Wish. Le dernier souhait, ce qui n'a à peu près rien à voir. Et donc, c'est un film Shrek, franchise Shrek. Le chapeauté est présent dans Shrek depuis longtemps. Il était dans le Shrek 1, 2001, il était dans le Shrek 2, 2004, dans Shrek le troisième, 2007, dans Shrek 4, il était une fin en 2010, et puis il était bien sûr le chapeauté, le personnage principal du chapeauté en 2011. Donc on le voit beaucoup, ça devient un personnage véritablement à suivre. Il est, je me suis laissé dire, aussi présent dans de multiples vidéos, séries TV et autres, toujours signé DreamWorks Animation. Donc... Alors, c'est ce film, c'est l'histoire, c'est la re-histoire du chat poté, et qui découvre, et c'est ce qui va mettre évidemment du sel, mettre une touche d'originalité au film, il découvre à l'occasion d'une de ses morts, le chat poté, comme tout chat qui se respecte, a 9 vies devant lui, hein, c'est pas comme la vie devant... Enfin bon, il a 9 vies devant lui, et il se rend compte à l'occasion d'une de ses morts qu'il ne lui reste plus qu'une vie. La 9e et dernière, donc, et
il est envahi par un sentiment qu'il ne connaissait pas, à savoir la peur de la mort, l'angoisse existentielle, le chapeauté tremble. Voilà. C'est chapeauté qui dit Kierkegaard, je ne sais pas. C'est
il tremble dans ses bottes, en fait.
Il tremble dans ses bottes.
D'accord.
C'est-à-dire, son poil se hérisse, il transpire et il réjouit le loup, qui est la mort personnifiée de manière assez extraordinaire, je dois dire. Alors, on va suivre les aventures du chapeauté pendant 1h42, c'est un peu plus long qu'un Quentin Dupieux, un peu plus court qu'un Avatar, et ça sort en même temps. Alors, ça a été long, cette sortie, je le disais, dans la mesure où le numéro 2 était prévu dès la sortie pratiquement du numéro 1, et puis de restructuration des studios Universal en Covid et en opportunités commerciales, eh bien la sortie a été sans cesse remise jusque donc à mercredi, si bien que le chapeauté sort en même temps qu'Avatar et en même temps donc que Stella est amoureuse. C'est pas peut-être pas au niveau commercial, c'est peut-être pas si terrible que ça, hein, finalement. Est-ce que il faut y aller? Moi je crois que oui, quand même. Pourquoi? Ce qui m'a...
oui, pourquoi?
Non, bon,
oui.
Bon, on va laisser Olivier poser les questions et les réponses.
C'est le mieux. Non, mais j'ai appris...
Ça, c'est la prévision 2023.
Ouais, c'est ça. J'ai un petit peu pris le pli de poser des questions pendant les rencontres, tout ça. Je sais pas. C'est un truc. C'est un conte. Et en même temps, c'est une aventure. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, apprécié, et puis en même temps, je mettrai un petit bémol, comme on fait souvent ici, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le jeu des réalisateurs avec le double registre du genre du conte, et du conte de fées, en l'occurrence, et du genre de l'aventure, d'autre part. Alors, le genre du conte, on nous apprend à la faculté, et puis ensuite, on répète à nos élèves que le conte, c'est le genre de l'initiation, c'est le genre... Alors moi, quand je fais cours, je dis pas le genre de l'initiation, je dis le genre de l'institution. Le conte, c'est le récit au cours duquel le héros s'institue, devient celui qu'il devait être depuis le départ. Le plus bel exemple, si on reste chez Perrault, c'est peut-être le petit poussé, par exemple, qui, d'aventure en aventure, devient le personnage principal qu'il était destiné à être dès le départ, quoi, d'une certaine manière. Et puis à côté de ça, il y a l'aventure. Effectivement, ça peut être une quête. En général, c'est une quête. Et on se lance. Et alors, les péripéties dans une telle aventure se multiplient à l'envi. Et c'est un petit peu ce qui fait justement le cinéma d'aventure avec poursuite, rebondissement, etc. Le chapeauté joue un petit peu sur les deux registres, encore une fois. Dans la mesure... Alors, on peut dire que Perrault jouait déjà sur les deux registres quand il a écrit... En reprenant un conte populaire, quand il a repris le maître chat, décidément, c'est invasif, hein, les bêtises. Hein. Et dans la mesure où le chat beauté de Perrault est déjà pas tout à fait un conte bien dans les clous du conte, dans la mesure où le héros du chat beauté, en fait, c'est le marquis de Carabas, c'est le fils du meunier, c'est lui le héros du conte, c'est lui qui va être institué. Et le chat beauté, le maître chat, est lui un aventurier qui va faire parvenir son maître, le meunier, qui va le faire parvenir à ses fins. Alors, d'une certaine manière, on a ce destin. Alors, On a le côté conte dans la mesure où le chat, je vais dire beauté, je préfère. Hein. On a bien la dimension du conte dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, le chat beauté prend conscience du fait qu'il est mortel et il va devoir devenir grand d'une certaine manière, c'est-à-dire il va devoir accepter que, comme tout le monde, il meurt et surtout que, comme tout le monde, il va être appelé à mourir définitivement. C'est pas une nouvelle vie. Il va pas claquer et comme au flipper et gagner une nouvelle vie. C'est ça. Et donc ça l'oblige à finalement s'instituer lui-même en personne responsable, adulte, etc.
D'un autre côté, le chat beauté, il est déjà institué. C'est déjà un personnage, on l'a vu, qui existe depuis de multiples films, séries, etc. Et il joue ce rôle, il a ce rôle de héros principal d'un film d'aventure, donc qu'on a sous les yeux. Et alors là, on a un effet d'empilement, un petit peu. Dans la mesure où vont se joindre aux aventures du chat beauté, eh bien, Boucle d'or et les trois ours, donc Goldilocks and the Three Bears, Boucle d'or et les trois ours, qui sont présentés là comme une famille criminelle, en fait. Ils sont recherchés par les autorités au même titre que beaucoup d'autres. Et donc, vous avez une assez belle réussite autour de ces personnages des trois ours et puis surtout du personnage de Boucle d'or, haut en couleur, extrêmement active, extrêmement proactive même, je dirais. Là-dessus va s'ajouter le personnage de Little Jack Horner. Alors, Little Jack Horner, alors là, vous avez c'est plus Little Jack Horner, mais c'est Big Jack Horner, et évidemment un personnage très gros. Alors lui, qui n'est pas issu du monde du conte, il est issu du monde de ce qu'on appelle les nursery rhymes, c'est-à-dire les petites chansons très rythmées, comme ça, avec des rimes, qu'on chante aux enfants pour les distraire ou pour les endormir. Et cette comptine de Little Jack Horner, c'est une comptine qui raconte évidemment tous les méfaits d'un même personnage particulièrement odieux. Et là, effectivement, dans le film, c'est le seul personnage qui est intégralement mauvais du début à la fin. Et c'est un personnage dont on peut raconter de nombreux méfaits, dans la mesure où il est collectionneur d'objets magiques. Il a dans son manoir une série invraisemblable d'objets magiques. Il a la Durandal, il a des cornes de licorne, il a toutes sortes d'objets de la tradition de la magie, de la féerie. Et il les utilise évidemment à l'envi dans la quête de l'étoile du soir, là, qui va permettre d'assumer enfin, un dernier vœu. Alors évidemment, ce personnage en lui-même favorise l'accumulation des aventures, et puis va s'adjoindre aussi au chat beauté, Kitty Softpaws, la chatte aventurière qui va devenir l'alter ego du chat beauté. Elle est elle-même une... Elle est elle-même une aventurière qu'on a déjà rencontrée dans les précédents épisodes, ce qui fait qu'en plus on va avoir une espèce de comédie romantique. Quand on voit les deux là à l'écran, on a l'impression d'avoir sous les yeux George Clooney et Julia Roberts dans Ticket to Paradise. Là, c'est exactement le même truc. Donc voilà, on a une espèce d'accumulation. Et alors dans cette accumulation, effectivement, c'est le bémol qui est nécessairement advient. C'est-à-dire que chaque élément du film pris séparément est absolument splendide. L'expression des personnages, les couleurs, l'animation elle-même, ordinateur numérique, absolument extraordinaire. Mais alors, effectivement, un effet d'accumulation. On a l'impression, au bout d'un moment, qu'on a ouvert la boîte de Pandore et que ça ne va pas arrêter. Si bien qu'il y a quelque chose d'un peu épuisant. C'est-à-dire, au bout d'une heure 42, on a l'impression qu'on est là depuis un petit moment à s'en prendre plein les mirettes. À tel point que je me suis même demandé si, perso, j'aurais été emmener mes enfants...
À partir de 6 ans.
À partir de 6 ans. Parce que je ne vois pas bien comment ils peuvent tirer de cette histoire, de ce film, une espèce de vue d'ensemble avec, entre guillemets, une morale, puisque bon, les contes de Perrault étaient accompagnés d'une morale. Là, ça devient un petit peu compliqué, même si le réel s'y essaye.
À la fois navire, à la fois Auteuil et à Cruas, à la fois au ciné 7 de Ruon, se voilà pour le chat poté et sa dernière quête, à défaut de dernier souhait. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, on reste rapidement peut-être dans le jeune public. Il y a aussi le Royaume des Étoiles qui est proposé du cinéma Le Navire.
Bah après, oui, il y a le Royaume des Étoiles et l'Opération Père Noël. C'était deux films d'animation aussi pour à partir de 6 ans, quoique Opération Père Noël, c'est peut-être pour encore les plus petits. Mais là, on est plus sur un format de réalisation européenne que le chat poté aussi des États-Unis. Et on sait aussi qu'il y a une différence à la fois de production et quand même de réalisation. On a tendance à faire des films jeunes publics, en tout cas aux États-Unis, où il y a énormément de choses. C'est ce que tu as raconté, en fait. Hein, c'est des films où il se passe énormément de choses, il y a énormément de personnages. Et c'est vrai que pour les petits, même à 6 ans, des fois, on peut se demander, effectivement. Mais en tout cas, sur Le Royaume des Étoiles ou Opération Père Noël, voilà, c'est beaucoup plus soft. Et c'est des histoires dans lesquelles les enfants rentrent beaucoup plus, quelque part, beaucoup plus facilement et qui restent très chouettes à voir. Pour Le Royaume des Étoiles, il y a deux histoires qui vont se mélanger avec des personnages de contes et des personnages, on va dire, réels, enfin, un petit garçon et une petite fille et sa sœur, et les deux histoires vont être mêlées à un moment, et il va y avoir aussi une quête. Il va falloir aboutir cette quête pour que tout revienne à la normale. Et moi, je le conseille bien, évidemment, pour les petits. Si vous voulez avoir... ouais, faire quelque chose d'un peu moins...
Le film peut-être. Dont j'ai parlé, Le Chaboté, me pose des questions quant à la manière dont ça parle à l'intelligence, en fait. Tellement ça part dans tous les sens. Quoi. Ouais.
Bon, au ciné 7 au navire pour Le Royaume des Étoiles, ainsi que l'opération Père Noël. Mais il y a une autre opération aussi qu'il faut signaler pour le jeune public, c'est l'opération Grizzly. Parce qu'en fait, il y a une opération événement au cinéma Le Navire. Alors moi qui suis parfois un petit peu dur en disant « Oh là là, il ne se passe pas grand-chose dans l'événementiel au navire. » Donc je vais vous dire que si, là, il y a un événement pour le jeune public à 15h au cinéma dimanche. Il y a ciné-goûté, il y a spectacle, il y a film. Voilà, donc vous avez tout.
Pour compte, hein,
bien compte, voilà, mais c'est ça, c'est le côté ouais. Spectacle, justement. C'est un conte animé qui est inspiré de la petite princesse, de la princesse, pardon, Petit Pois. Ouais. Il y a Opération Grizzly, qu'on peut voir dès 5 ans, nous dit-on. Puis après, vous avez le goûter du Père Noël. Et je suppose que le Père Noël sera là en plus. Hein, donc les enfants ont tout intérêt d'être présents. C'est 10€ par personne et c'est recommandé tout de même de réserver la prévente donc à l'accueil du cinéma ou par mail au benat@lenavire.fr. Ça, c'est pour dimanche à partir de 15h. Ne manquez pas ce rendez-vous. On a d'autres films encore dont il faudrait peut-être parler. Il y a d'autres choses aussi au niveau actu, peut-être qu'on peut signaler du côté de la Maison de l'Image. Donc, tu avais la parole, Cathy, sur les deux derniers films de projection à l'USA Statuaire pour la période.
Oui, pour ce soir, ce sont les deux derniers. Dernière projection avant les vacances et nous avons à Tueil à 20h30 Couleur de l'incendie qui est le deuxième adaptation d'un livre de Pierre Lemaitre après Au revoir là-haut qui avait été adapté au cinéma par Albert Dupontel et là c'est Clovis Cornillac qui s'y colle avec une réalisation beaucoup plus classique on va dire, beaucoup moins inventive que celle d'Au revoir là-haut mais tout à fait honnête et donc donc, bien sûr, je vous conseille, enfin, nous vous conseillons tous, je pense qu'Olivier est d'accord. Ouais, et puis à l'USAS à 20h30, ce sera Reprise en main, qui est un film de Gilles Perret, qui est son premier film fiction. Enfin, c'est pas un documentaire. Gilles Perret fait beaucoup de documentaires, mais il a toujours ses sujets de prédilection, à savoir le militantisme et la défense. Bon, alors là, on est en milieu entreprise avec des salariés qui vont vouloir reprendre en main la boîte dans laquelle ils bossent.
Leur destinée, en fait, en quelque temps.
Exactement.
Nous avions encore Annie Colère, dont nous n'avons pas parlé. Et c'est un film qui reste à l'affiche pendant 2 semaines, dont on parle beaucoup au niveau national. Mais voilà, peut-être un petit point.
Ah bah, Annie Colère, oui, c'est un film de Blandine Lenoir qui revient dans les années 70 avec la création des MLAC, donc le mouvement pour la liberté, la contraception et l'avortement, enfin du droit à l'avortement. Donc juste avant que ne passe la loi Veil, là on est sur la constitution de ces groupes. Ce film raconte l'histoire d'une femme qui est interprétée par Laure Calamy, qui à la fois est personnellement impliquée puisque elle va être enceinte et elle ne veut pas avoir cet enfant. Elle a déjà deux enfants et c'est à la fois son histoire à elle par rapport à ça, mais c'est aussi un film qui va raconter comment cette femme et comment d'autres femmes ont trouvé un sens aussi à leur vie à travers ces mouvements, à travers ces collectifs et cette solidarité, cette sororité et tout ça avant que derrière il y ait des lois, il y ait des actions un peu plus concrètes données à ce choix de l'avortement. Et c'est un film, là aussi, d'un point de vue de la réalisation plutôt classique. Enfin, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire, mais ce qui se passe, c'est ce qui est extraordinaire, c'est ce qui se passe à l'écran. Et ce collectif de femmes qui travaillent aussi avec des hommes, avec des médecins. Il y a aussi la place des pères ou des maris aussi, qui est intéressante dans ce film, qui est bien traité. Et oui, Annie Colère, c'est un film à voir, ouais.
Alors, pas sur les écrans du cinéma Le Navire, mais au Ciné 7, Auteuil et à Rosières. Et puis, il y avait encore Le Lycéen qui est à Rosières et qui sera la semaine prochaine du côté d'Aubenas, sur les écrans du Navire, si je ne me trompe. Le Lycéen, que vous pourrez voir en version aussi sous-titrée française. Vous savez, il y a encore ces séances qui sont pour les personnes malentendantes, qui existent de nouveau. Je pensais que ça avait s'était arrêté, mais je vois qu'il y en a une proposée le 26 décembre.
Ah, non, mais c'est important. Il faut en faire encore.
Oui, mais je pensais que c'était compliqué, donc je pensais que c'était arrêté.
Non, c'est des versions, c'est uniquement des versions. Tous les films n'ont pas la version sous-titrée, mais tous ceux qui l'ont, c'est bien de pouvoir...
Christophe Honoré, Le Lycéen.
Oui, Christophe Honoré, Le Lycéen. Alors, on a parlé tout à l'heure
de Stella. Avec Stella, donc on
oui, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de films qui reviennent. Et puis, c'est la question des 15-25 au cinéma. C'est un public cible que toutes les salles sont en train de vouloir séduire pour revenir au cinéma et pas forcément sur des blockbusters. Et là, Le Lycéen, c'est la façon, oui, que Christophe Honoré a aussi choisi de parler d'un jeune homme qui va voir sa vie basculer à cause d'un drame et qui est en même temps en train de se découvrir, l'amour, par qui il est attiré et se construire avec tout ça. Et voilà.
À découvrir donc au Navire, mais pas avant la semaine prochaine, sinon cette semaine à Rosières. Et puis Olivier, tu voulais un petit mot très rapide sur la conspiration du Caire et sur Juste une nuit. Oui. Deux films qui vont être projetés demain au Teil en VO, par exemple, pour Juste une nuit à 14h et La conspiration du Teil à 17h45.
Oui, juste un mot, non pas pour parler de ces films, ça serait évidemment trop long, mais pour leur rendre justice, ce sont des films qui m'ont énormément touché. À leur sortie, pour des raisons différentes, donc je vais pas m'étendre, juste pour dire, si vous avez l'occasion, en plus en VO, allez voir ces deux films qui ont énormément de mérite et qui offrent des clés de lecture de l'actualité, en particulier au Proche-Orient.
Voilà, et c'est demain, donc les deux en VO, tu l'as dit, Cinéma Le Regain, Auteuil, 14h pour Juste une nuit, allez, une petite pause, et puis après vous enquillez avec la conspiration du Caire, ça vous fait un mini festival le samedi après-midi.
Oui, mais vraiment ça vaut le coup, vraiment.
En parlant de festival, je voulais juste stipuler que la 40e édition du festival du premier film d'Annonay dont on parlait ici hier, puisqu'on a réentendu Gaël Labanti, merci, et puis on a parlé aussi du film Les Pires d'ailleurs, qui arrive la semaine prochaine sur les écrans du cinéma Le Navire, et que moi je ne peux que vous conseiller, j'avais pris un grand plaisir à aller voir ce film. Et bien le festival a sorti ses films en compétition, les 10 films de la compétition sont sortis, donc je ne vais pas vous les citer parce que de toute façon ce sont des premiers films de réalisateurs, donc on les connaît peu ou pas, sauf si vous êtes des grands amateurs de courts-métrages ou éventuellement de documentaires, mais allez sur le programme du festival du premier film d'Annonay, vous allez tout découvrir sur cette 40e édition qui a lieu du 27 janvier au 6 février.
Et nous aurons une carte blanche, oui. Puisqu'il y a carte blanche avec les rencontres des cinémas d'Europe et normalement on devrait revenir sur Tout le monde aime Jeanne de Céline Dalvaux.
C'est sympa ça. Ouais. Mm.
Très bon choix. Mm. Allez, c'est terminé. On vous souhaite de bien faire refermer cette année 2022 dans les salles de cinéma. Et puis on se retrouve, je crois que ça fera le 5 ou le 6 de janvier, pour redémarrer ce Cinémascope, le 6.
Joyeuse fête.
Une bonne fête à tous.
Bye bye, merci.
Et à toutes.
Alors maintenant, on met la caméra au milieu. Voilà.